There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Au Pays Basque, on adore le MCU et on écoute Super Laser Punch.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch, épisode numéro, on est au combien 3 et on va couvrir, peut-être qu'on va pas dire que c'est épisode numéro 3 parce qu'on couvre WandaVision, épisode numéro 5, qui est, alors si on pensait que l'épisode 4 était plein de surprises, Watcha l'épisode 5, bon sang de bois, on va y venir. Je suis Patrick Béja, vous êtes dans Super Laser Punch et merci d'ailleurs à Wakamama pour cette intro magnifique. Et je suis avec Johan, comment ça va? Est-ce que ta tête est encore sur tes épaules après cet épisode?
Ça va très bien et ouais, c'était quelque chose. J'ai des, comment on dit en anglais, mixed feelings. Je suis très partagé.
Mixed, mais comment tu peux avoir des tu vas être partagé sur ça?
Je me suis levé de ma chaise, j'ai bondi, j'ai fait quoi? À haute voix tout seul chez moi, hein, donc il n'y avait personne pour me juger. voilà, c'est quand même, on en reparle juste après, mais ouais, je suis un petit peu, voilà, j'ai un petit peu peur.
D'accord, bon, écoute, on va en parler. Peut-être, évidemment, on spoil, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le regarder. On spoil toujours le dernier épisode en date, et rien de plus. D'ailleurs, j'ai peut-être fait des modifications aux épisodes précédents de Super Laser Punch pour m'assurer que c'était bien le cas. Mais je te propose quand même qu'on commence par la fin de l'épisode 5, parce que c'est vraiment le moment what the fuck ultime, quoi. Donc, tu t'es, peut-être nos réactions, tu t'es levé de chez toi, tu disais, tu t'es levé de ta chaise, t'en pouvais plus?
Ouais. On connaît un peu les comics et tout ce qu'il y a eu autour, donc il y a plein de choses qu'on pouvait, on se dit, bon, il va peut-être se passer ci, il va peut-être se passer ça. Mais effectivement, là, moi, je m'y attendais pas du tout, j'étais vraiment pas prêt pour ce contre-champ qui révèle le visage de l'acteur. J'étais très surpris.
C'est marrant parce que moi en fait, tu vois le dos de la tête de Pietro et tu te dis, et moi à ce moment-là, je disais, ah ouais, je le savais, j'avais deviné parce que je suis trop intelligent, j'avais deviné qu'ils allaient ramener Pietro, c'était évident. Et j'étais en train de regarder avec ma femme et on voit le dos de la tête de Pietro et je dis, ah, on parle parfois en français, parfois en anglais, et je dis, oh, I knew it. Tu vois, je le savais. Évidemment, depuis le début, genre dans 3 épisodes différents, ils ont dit, oh, mais toi aussi, tu es une jumelle, tu as un frère qui s'appelle Pietro. C'est genre, je suis trop, trop fort d'avoir pensé qu'il ramènerait Pietro à un moment, tu vois. Et donc, je dis, oh, I knew it. Et quand tu vois le visage, ensuite, le contre-champ, j'étais, oh my god! Mais tu sais, littéralement, et j'ai mis mes mains sur ma tête et ma femme, qui aime beaucoup le MCU, mais qui a rien vu à côté, elle me regarde, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais, et j'ai dû mettre pause, et je lui ai expliqué, en fait. Et peut-être d'ailleurs qu'on devrait expliquer pour certains qui ont vu l'épisode mais qui savent pas exactement pourquoi c'est aussi important. Qu'est-ce que tu penses qu'on leur explique pourquoi c'est ce visage de Pietro est si important pour tout le MCU en fait. Je vais essayer de résumer en fait, parce que ça a à voir avec la puissance des corporations américaines en plus de nombreuses histoires de comics. En fait, quand Marvel a vendu les droits de ses super-héros aux différentes sociétés de cinéma, ils ont vendu Spider-Man et tout ce qu'il y a autour de Spider-Man à Sony, les X-Men et tout ce qu'il y a autour des X-Men à Fox, Et les X-Men et Spider-Man, c'était leur plus grande licence. C'était vraiment, les Avengers aujourd'hui, ils sont gros, mais c'était minuscule à l'époque comparé à ce qu'ils avaient vendu à Fox et à Sony, puisqu'ils ont aussi vendu en plus les Fantastic Four à Fox. Bref, les X-Men, ils appartenaient à Fox. Et Fox a fait de nombreux films de plus ou moins bonne qualité, parfois de très mauvaise qualité, sur cet univers des X-Men, qui est un des groupes de super-héros, je pense que vous connaissez si vous écoutez ce podcast. Le truc, c'est que Pietro et Wanda Maximoff, donc Wanda et Quicksilver, enfin Scarlet Witch et Quicksilver, sont parmi les seuls héros qui font à la fois partie des Avengers et qui sont des mutants. Les X-Men sont tous des mutants, des évolutions génétiques de l'humanité qui ont des pouvoirs. Et donc, les deux jumeaux, Wanda et Pietro, sont dans les deux univers. Donc, la Fox avait le droit de les utiliser et ils ont utilisé Pietro et Marvel avait aussi le droit de les utiliser au cinéma et ils l'ont fait, bien sûr, on le sait, avec Wanda et Pietro, Pietro qui meurt dans le film Age of Ultron. Donc son jumeau est mort. Et donc là, ils ont ramené Pietro, mais pas le Pietro de l'univers de Marvel, des Avengers, l'acteur est l'acteur du Pietro des X-Men. Et bien sûr, on le sait, Marvel a racheté la Fox il y a quelques mois de ça. Et donc, le fait qu'il ramène Pietro des X-Men amène, a priori, rien n'est confirmé, mais a priori, amène l'univers des X-Men dans le giron du Marvel Cinematic Universe, ou peut-être devrait-on dire maintenant le Marvel Cinematic Multiverse. C'est-à-dire que c'est un univers parallèle, peut-être, comme il y en a beaucoup dans les comics d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont un artifice dans les comics. Chaque univers séparé est identifié par un numéro de la Terre. L'univers original, c'est Earth 616, je crois, la Terre 616. La Terre des Ultimates, c'est peut-être 1616, je ne sais plus. Un truc comme ça.
Ouais, c'est 10 quelque chose. Je suis un peu nul en numéro d'univers.
Et le MCU, même lui, il a son numéro, c'est 19999, un truc comme ça. Bref. Et donc, là, c'est simplement le fait de dire, bah oui, tous ces univers parallèles dans un multivers Marvel, ils existent. Et donc, ils confirment d'une certaine manière que dans le canon du MCU, il y a des multivers et l'un d'entre eux est l'univers des X-Men de la Fox. Qui est en parallèle de l'univers de Marvel.
Alors j'ai, ça, c'est dire l'univers des mauvais films, mais
ouais, ils sont pas tous super, c'est vrai. Mais du coup, c'est vraiment énorme, 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 parce que ça légitimise, ça fait rentrer dans le canon tous les films, en tout cas des X-Men, de la Fox. Et c'est monstrueux, parce que ça amène pour la première fois les mutants et les X-Men dans l'univers du MCU. Et si je disais les X-Men, c'est une propriété qui avait beaucoup plus de valeur que les Avengers tout à l'heure, c'est vraiment vrai. Les Avengers, c'était rien jusqu'à l'arrivée du MCU, ou rien, c'était vraiment des héros de seconde zone. Et les vrais gros morceaux, c'est les X-Men, c'est Spider-Man, c'est peut-être même les Fantastic Four. Et du coup, le fait que ça soit pour au niveau de la continuité du MCU, c'est important. Mais en plus de ça, ça a des implications dans l'interprétation qu'on peut avoir de tous ces faits. Est-ce que c'est effectivement Pietro qui a été ramené d'un univers parallèle parce que c'est Pietro qui est le frère de Wanda et dans le contexte de WandaVision, elle va peut-être penser que oui, c'est bien. Enfin, elle va sentir quelque chose avec Pietro, même si c'est pas son Pietro, etc., etc. C'est qui l'a ramené ? Est-ce que c'est Mephisto qui a décidé que le moment de conflit avec Vision commençait à menacer l'équilibre de la construction psychologique ? Et donc, il a dit, bon, bah, il faut ramener quelque chose pour la calmer, pour lui donner envie de rester dans cet univers. Et donc, on va chercher Pietro, mais le Pietro de son univers à elle, il est mort. Et on ne peut pas ramener les morts, on va en reparler tout à l'heure. Et donc, on va aller chercher un autre Pietro quelque part. Et ben, il y a un Pietro dans un autre univers parallèle, et ça devra suffire. Est-ce que, même si c'est, enfin, je suis à bout de souffle. Johan, quelle est ton interprétation de toi, ça ? de tout ça.
Déjà, effectivement, pour moi, ce qui est énorme dans cette apparition-là, c'est que ça ouvre en fait des possibilités qu'on pensait entre guillemets impossibles, même si Disney avait racheté Fox. Typiquement, maintenant, demain, si on a l'acteur actuel de Magneto qui se pointe, voilà, ça c'est rentré, on va dire, dans le champ des possibles. Tu vois, donc on peut maintenant imaginer d'autres acteurs arriver comme ça. Donc moi, c'est un peu dans cette optique-là que je trouve vraiment ça énorme. Après, pour le personnage en lui-même, voilà, c'est là où je vais avoir un peu des sentiments partagés. C'est que bon, pour le moment, on ne sait pas vraiment qui est ce Pietro. Est-ce que c'est effectivement est-ce que c'est vraiment le Pietro de X-Men, quoi, c'est First Class, non, c'est Day of Future Past.
Il y en a plusieurs, il est apparu deux ou trois fois dans les films de X-Men.
Mais du coup, ces films-là, ce qui est marrant, c'est qu'ils se passent dans les années 80-90, donc qui correspond du coup à la temporalité de la télé-réalité Vandavision. Télé-réalité de la sitcom Vandavision qui est à l'intérieur de la
MCU, série. Ouais.
Voilà. Et du coup, effectivement, moi, je sais pas si c'est lui. Je serais pas étonné que ça soit pas lui du tout, que ça soit pour le coup une construction complète mais de qui que ce soit qui est derrière ce qui est en train de se passer.
Mais le truc, c'est que même si c'est le cas, ça légitimise quand même le multivers, parce que même si c'est physiquement lui, on est d'accord. C'est pas un hasard.
D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai vu passer, mais l'audio description de la série, c'est-à-dire la version audio, enfin la version de la série qui explicite, qui décrit ce qui se passe à l'écran pour les personnes qui ne voient pas très bien, dit explicitement arrive
c'est le Pietro
dans le champ,
de l'univers des X-Men.
Le Pietro de l'univers des X-Men.
C'est ça.
Donc c'est pour moi c'est complètement validé. Hein. C'est-à-dire que oui, là il y a une prise en compte réelle de ces univers-là et ça ouvre, on va dire, des possibilités pour la suite qui sont assez énormes. Après voilà, c'est un peu difficile. Est-ce que ça veut dire que les X-Men passeront par là pour rentrer dans le MCU ou d'autres héros qui, voilà, c'est
moyen.
Moi je serais pas fan en fait que ces personnages-là restent. Typiquement, je serais pas fan que ce Pietro-là reste après dans les autres films, etc. J'aime bien que ces univers-là soient bien séparés.
Moi, je pense pas que ça veut dire qu'on va avoir les X-Men de la Fox qui vont débarquer dans le MCU. Pas comme ça. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est ça légitimise le multivers, mais même dans les comics, il y a rarement des intersections entre les multivers. Ça arrive dans des gros événements importants, des gros events importants, mais généralement, c'est chacun de son côté et c'est pas plus mal comme ça, surtout comme tu le dis, parce que la Fox a pas super bien traité les personnages. Il y a eu des films pas mal et des films moins bons. Il y a des personnages qui sont très bons. On parlait de Magneto, il y a Logan, bien sûr, Wolverine qui est très bon. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on peut regarder. Même Pietro, il était pas mal. Enfin, sa scène d'action était pas mal, même si elle a été dupliquée de manière un petit peu paresseuse dans deux films différents, je trouve, chez les X-Men. Mais même là, en fait, cette histoire de multivers, on en avait eu quelques goûts dans Spider-Man 2, Far From Home. On a à la fin, bien sûr, la scène post-crédit, J. Jonah Jameson, qui est celui de l'univers de la première trilogie de Spider-Man. On a, je pense que tout le monde est au courant, des rumeurs sur le fait que Spider-Man 3 du MCU intègre des éléments des trilogies précédentes et donc légitimise le multivers de cette manière aussi. Et puis on a bien sûr le titre de Doctor Strange 2, qui est Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et on sait que Wanda Maximoff en fera partie. Donc, le multivers, on savait qu'ils allaient l'amener à un moment, mais on savait pas quoi, comment ou quoi. Et là, c'est clairement établi. Tu disais quelque chose, pardon ?
Je disais qu'il y avait aussi Deadpool qui était intégré en l'état aussi au MCU, donc on ne sait pas encore par quel biais scénaristique, mais qui, du coup, le Deadpool de Ryan Reynolds qui est annoncé pour être
tout à fait, le Deadpool de Ryan Reynolds, donc de l'univers des X-Men en rated R, donc restricted, donc assez adulte, qui va être intégré au MCU et visiblement toujours en version assez adulte. Donc oui, on savait que ça allait arriver. Bon, bref, on a bien compris pourquoi c'est énorme. Et par contre, effectivement, on ne sait pas. Moi, je ne pense pas que ça va amener les X-Men tels quels, les transposer dans l'univers du MCU, ça, je ne pense pas. C'est juste que ça légitimise la nature de mutant, à mon avis, de Wanda et Pietro. C'est-à-dire que ça peut être un biais qui va amener les mutants dans l'univers du MCU, parce que souviens-toi que Wanda et Pietro ont été créés grâce à la pierre, c'est la pierre d'âme, et donc c'était l'influence des pierres d'infinité. Et on a eu un truc que de nombreuses personnes disent depuis plusieurs années déjà, on a eu des déflagrations des ondes des pierres d'âme avec les snaps, à trois reprises, ou peut-être même quatre reprises, je ne sais plus, dans l'univers du MCU. Et donc, ça peut vouloir dire que les pouvoirs de Pietro et Wanda dans le MCU ont été activés, les pouvoirs étaient d'origine mutante, et ils ont été activés par les pierres d'âme, par la pierre d'âme, et du coup, quand il y a eu les snaps, ça a envoyé des déflagrations dans l'univers entier, avec la Terre en son centre, et donc ça a également activé les pouvoirs de tous les mutants, qui étaient sur... Enfin, pas tous les mutants, mais ça en a activé plein, qui étaient sur Terre, et donc ça a amené les mutants dans l'univers du MCU. C'est juste que le fait d'avoir Pietro ici, ça légitimise le fait qu'il y a un truc qui s'appelle les mutants. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mutants qui avaient muté avant ça, mais là, ça a vraiment provoqué une mutation massive de tous ceux qui avaient ce X-gène, ce gène X dans le monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais Vision lit à Tommy ou Billy dans cet épisode. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le livre de Darwin, L'évolution de l'homme, la filiation de l'homme, un truc comme ça. Et c'est encore une référence à l'évolution qui mène aux mutants. Donc, je crois que c'est ce que ça veut dire, Pietro, là, on verra dans l'épisode de cette semaine, mais ça veut dire il y a des mutants. Et donc, peut-être que Wanda et Pietro Mort étaient des mutants dont les pouvoirs ont été... Leur pouvoir vient du fait qu'ils soient mutants.
Après, on verra comment est-ce qu'ils introduisent ça, parce que je crois que les X-Men, c'est pas pour tout de suite. Donc, je pense qu'ils ont le temps de bien expliciter leur apparition avec les nombreux films qui vont arriver. Donc ça, c'est la première pierre, effectivement. Effectivement, les mutants, c'est canon, maintenant. Même si c'est dans un autre univers, pour le moment. Après, reste à voir, effectivement, comment est-ce que ça va se déclencher dans l'univers du MCU. Ouais.
Bon, parlons un petit peu d'autre chose que de juste Pietro, ouais. Mais je suis hyper curieux, évidemment, de voir ce que ça va donner. En plus, avec... Il arrive là, « Hey, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un... câlin avec sa sœur, c'est un petit peu Fonzie, tu sais, ou Jesse, ou c'est tellement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, un truc que j'ai pas beaucoup vu noter, il dit en voyant Vision, il dit, hey, who's the popsicle? Qui est la sucette là? C'est qui? Et ça veut dire que c'est vraiment pas Pietro de son univers, parce que Pietro il connaissait Vision.
Oui. Oui, bah, là, c'est clairement. Enfin, là, pour moi, c'est assez explicite que c'est bien ouais. Le Pietro des X-Men. Il n'y a vraiment aucun
doute là-dessus.
C'est soit lui, soit une entité qui se fait passer pour lui, mais en tout cas, c'est une représentation vraiment de ce Pietro-là, d'un autre univers, ça c'est certain.
Bon, parlons un petit peu d'Agnès et du chien et des enfants et des enfants qui grandissent. Quel est le fuck avec tout ça?
Alors, du coup, je vais juste redire un peu là. Agnès, là, on la voit vraiment beaucoup dans cet épisode. Elle semble très intéressée par les enfants de Wanda. Et du coup, effectivement, elle va venir essayer d'interagir le plus possible avec eux, j'ai l'impression. Donc, au tout début, elle vient pour essayer de les prendre. Pendant que
de les endormir.
Wanda et Vision, ouais, c'est ça. Pendant que Wanda et Vision se disputent un peu, elle leur asperge un espèce de d'encens. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Mais en tout cas, juste après, les enfants ont pris 5 ans d'un coup.
Je crois pas que ça soit à cause de ça.
Je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, elle est là. Ouais. Elle est là quand ça se passe, en tout cas. Elle est là quand les enfants grandissent, cette première fois-là. Donc, ils passent de 0 à 5 ans. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le générique, juste après, il y a une photo d'anniversaire où il souffle un gâteau avec les 5 bougies, 1, 2, 3, 4, 5.
En même temps.
mais bon, bref. Et donc, et cette séquence-là, ce pattern-là de Agnès qui débarque, les enfants qui grandissent en sa présence, il va se répéter presque 3 fois. Donc, la première fois à ce moment-là. La seconde fois plus tard avec le chien, justement, où elle va J'ai l'impression qu'elle va provoquer un peu ça. Les enfants vont vouloir grandir de nouveau.
Pour pouvoir s'occuper du chien.
Garder le chien. Et à la mort du chien, qui est aussi en présence d'Agnès, ils vont être tentés de grandir de nouveau pour passer le chagrin rapidement.
Et on est d'accord, c'est hyper lié à Agnès. Enfin, c'est elle qui provoque truc. On a l'impression que c'est elle qui les pousse à grandir, en tout cas.
Ouais, j'ai l'impression qu'elle est là effectivement pour les pousser à... Alors, j'ai l'impression que c'est de leur fait, ça c'est clair. Mais Agnès est là pour déclencher ça, on a l'impression. Donc ça, c'est, je pense que ça s'accélère beaucoup de ce côté-là. J'espère que ça va pas trop traîner le mystère d'autour d'Agnès trop longtemps, parce que voilà, on a compris qu'il y avait quelque chose maintenant. J'aimerais bien qu'on avance sur ce point-là, mais clairement, il y a quelque chose avec Agnès. D'ailleurs, Agnès, qui est étrange, elle a plusieurs titres, donc il y a cette histoire-là, mais il y a aussi le fait qu'elle. Donc, au début où elle veut prendre les enfants, il y a Vision qui n'est pas trop d'accord, et tout d'un coup, elle sort
de
son personnage.
Elle ne veut pas les enlever, elle veut juste les.
Ouais, elle veut le porter, les bercer, en fait.
Les bercer.
Juste, c'est ça. Et elle sort de son rôle à ce moment-là pour demander à Wanda, mais du coup, on fait quoi? On reprend depuis le début?
Quelle scène, celle-là? C'est vraiment genre. Et d'ailleurs, c'est tellement gênant, bien fait, les enfants arrêtent de pleurer à ce moment, tu sais. Et elle dit, mais. Quand Vision dit, non, c'est bon, tu les prends. Et elle dit, mais. Elle s'arrête et fait, ok, donc, bon, on recommence, on revient. Et tu sais, les deux, ils la regardent, ils sont, mais de quoi? Pardon? De quoi? Tu veux que je prenne les enfants, non? Et puis après, la scène reprend, genre. Et c'est tellement bizarre et tellement bien amené. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle a pas l'air. Enfin, elle a l'air d'être vraiment consciente de ce qui se passe et de se contrôler elle-même. Genre, elle suit volontairement le script de la série, quoi. Ce qui a l'air d'être différent des autres intervenants, enfin des autres acteurs, entre guillemets. Il y a un autre truc qui m'a énormément marqué, c'est que quand elle fait, Wanda, le discours aux enfants sur la mort et sur le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, machin, d'une part, les enfants disent « Mais toi, tu peux ramener les morts. » Et évidemment, on part du principe qu'elle a ramené Vision, et donc eux, ils le savent, les enfants, et on part du principe qu'elle a ramené Vision, mais il y a deux trucs, c'est que elle dit « Mais non, on ne peut pas ramener les gens morts. » Donc je suis du coup pas convaincu que ça soit elle qui a ramené Vision. Et d'autre part, Agnès, qui n'est étonnée par rien de tout ce qui se passe, les enfants qui grandissent, rien ne l'étonne. Et quand ils disent ça, elle est vraiment choquée. Elle dit « Mais you can do that ?» Tu sais, c'est vraiment « Mais tu elle n'était pas au courant.
Son visage est vraiment très inquiet. Elle est inquiète. Hein. Elle est là. Hein. Elle n'est pas bien.
Et en plus de ça, on saute un petit peu dans tous les sens, mais en plus de ça, quand Vision et Wanda se disputent dans la maison, elle insiste auprès de Vision. Elle dit « Mais tu crois vraiment que je suis en train de contrôler tout ce qui se passe ici ? Tu crois que je contrôle les gens pour qu'ils aillent chez le dentiste, pour qu'ils conduisent jusqu'au boulot pour... ?» Et elle est en train de dire « Mais c'est pas moi qui fais tout ça !» Et en plus, elle dit qu'elle n'a pas non plus de souvenir de comment tout ça a commencé. Et Vision aussi dit « Mais je sais pas d'où je viens, je sais pas qui je suis. » Et elle aussi, elle dit « Mais je sais... » Alors, elle a plus de souvenirs de ce qu'elle est, mais elle dit « Je sais pas comment ça a commencé. » Elle est juste en train de le continuer, quoi. Donc, je suis pas aussi convaincu que tout le monde qu'elle est à l'origine de tout ça, quoi.
Mais pour la résurrection de Vision, là aussi, moi, je suis pas sûr encore à 100% hein, de ce qui s'est passé, mais pour moi, Vision, c'est quand même aussi une machine qu'on pourrait potentiellement réparer, surtout qu'ils avaient commencé à sauvegarder une partie de sa personnalité dans Infinity War, il me semble.
C'est vrai qu'au Wakanda, ils avaient sauvegardé toute sa personnalité, ils voulaient le transférer.
C'est ça, et puis donc on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du Sword, mais du coup, Vision était dans un de leurs usines et ils étaient en train de travailler dessus, donc voilà, je sais pas si c'est vraiment une résurrection.
Ouais, on va y revenir tout à l'heure, Mais comme le dit c'est Jimmy Woo, je crois, sans la Mind Stone, comment est-ce qu'ils font pour le... Parce qu'il fait partie intégrante, la Mind Stone fait partie intégrante de lui. Encore que, comme il le disait dans Infinity War, peut-être que sans la Mind Stone, il ne reste que le meilleur de Vision, on ne sait pas, bref. Bon, il y a donc ces scènes-là, les enfants à ce moment-là, elle réussit à faire en sorte qu'ils ne grandissent pas pour ne pas prendre de raccourcis par rapport à leurs sentiments et à la mort, ok. Il y a d'ailleurs le postier qui est passé à un moment et qui dit « Non, mais vous inquiétez pas, le chien ira pas très loin, elle le laissera pas aller très loin. » Donc là encore, ouais. Genre, mais... Ok, donc... ok. On a la scène avec Norm, où Vision le débloque, le sort de l'emprise de la ville, qui était assez mémorable aussi avec les emails. À un moment, ils se mettent à tous les lire comme une secte encore, comme un culte. Énorme, qui est défait de la vision de... Pas de la vision, de l'emprise, qui dit « Elle contrôle tout, il faut l'arrêter. You must stop her. » Donc, c'est vraiment elle. Mais il dit jamais Wanda.
Non, et donc, d'ailleurs, Vision appuie ça en disant « Mais stopper qui, quoi ?» Enfin, donc, ouais. Je pense que cette réplique, elle n'est pas pour rien. C'est que... là, le doute, il est volontairement mis. Hein. Donc, pour moi,
Est-ce que tu crois qu'il est possible qu'en fait, Agnès travaille avec Wanda pour faire tout ça, mais dans un but qui était d'aider Wanda à la base? Non, peut-être pas, non. Elle est trop...
Ouais. Bah, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a aussi Dottie qui est un peu disparue.
On l'a vu qu'une fois. Je comprends pas pourquoi.
On l'a vu qu'une fois.
Que...
Alors pourquoi? Parce que bah, déjà elle est pas listée hein, parmi les personnalités qui chez le Sword. Là, ils ont un tableau avec tout le monde et les.
Ouais, mais il y a six personnes. On l'a vu une fois dans une moitié d'épisode.
Ouais, mais Agnès insiste beaucoup quand ils vont la voir qu'elle est la personne in charge et qu'elle décide.
C'est vrai.
Du oui ou non de ce qui peut se passer. Donc, et en plus, c'est à ce moment-là où il y a l'histoire de la radio qui s'active et où Dottie brise ce moment-là en cassant le verre, tu sais, en se blessant, comme si elle voulait justement ramener Wanda dans dans l'intérieur. Donc, je sais pas, hein, c'est un peu
tiré par les cheveux.
On essaie de réfléchir un peu à qui ça peut être ce « she ». Donc ce L stop là, donc c'est pour l'instant les deux personnages qui sont crédibles pour moi, enfin qui seraient potentiellement une personne à arrêter.
Ouais,
ou
c'est possible.
Encore
possible.
Une autre qu'on n'a pas vue, mais.
Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il y a un autre moment que je voulais mentionner, ce qui amène à la porte qui sonne et au reveal de Pietro, le combat, enfin la dispute. Entre Vision et Wanda, un truc que j'ai trouvé extra, c'est le moment où Wanda dit, Vision dit « Ah, mais tu peux pas me contrôler », Wanda, elle dit « Ah ouais, t'es sûr ?»
Ah ouais.
Et elle commence à partir, il y a les crédits, le générique qui commence à passer. C'est tellement un artifice intelligent, j'ai trouvé ça hyper, hyper malin, quoi.
Et ouais, c'est vraiment, ça m'a fait penser à la. Il y avait un mème, enfin une vidéo musicale, Too Many Cooks. Je sais pas si tu te souviens de cette. Cette vidéo où justement ça commence comme un générique de série de l'époque de sitcom. C'est une musique très entraînante avec tout le monde qui sourit, etc. Et ça dure très 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 longtemps et puis ça crée un univers avec une histoire à l'intérieur du générique avec justement des jeux sur les. Justement sur les crédits, ce genre de choses-là. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et du coup, oui, effectivement, ouais, c'est assez génial qu'elle puisse déclencher le générique limite en claquant des doigts. Genre, tu m'as saoulé. Vas-y, fin de l'épisode. Fin de l'épisode. Et ça embraye. Moi, je trouve que ça embraye sur un moment ultra poignant. Je trouve que le Vision qui complètement aux abois, qui essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant Westview, qu'est-ce qu'il y a au-delà de Westview. Enfin, c'est... Clairement, là, il est pas bien et il essaie de. Justement, j'ai l'impression qu'il arrive quasiment à convaincre Wanda à ce moment-là que c'est pas bien et qu'il faut essayer de rompre ce truc-là. Et c'est à ce moment-là que, justement, comme par hasard, hein, ça sonne à la porte et du coup, ça te ramène encore un ancre émotionnel à Wanda de plus dans la ville qui fait qu'elle voudra absolument pas sortir de cette illusion. Quoi.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on se dit. C'est peut-être la force qui veut faire et grandir les, enfin qui a besoin, qui a créé tout ça et qui a besoin que Wanda reste là-dedans, c'est peut-être cette force-là qui a amené Pietro pour pousser Wanda à rester, quoi. Bon, passons un petit peu de l'autre côté du miroir et du côté du Sword. Est-ce que tu, il y a un autre truc dont tu voulais parler dans le...
Non, on peut passer au Sword. Moi.
Très bien. Je crois que la première chose qui me marque, moi, dans la partie Sword, faut que je dise, je prononce bien, c'est la partie Sword. C'est Hayward qui est clairement un, enfin qui essaye de. Je sais plus où je l'ai entendu, mais c'est très vrai. C'est soit un abruti, soit un méchant. Et peut-être qu'on peut revenir à Hayward après quand il y a l'histoire du drone. Mais déjà dans le meeting au départ, il essaye vraiment de montrer que Wanda c'est une terroriste, qu'elle est hyper méchante, qu'elle est machin. Alors peut-être qu'on peut le voir comme ça, mais ça a l'air vraiment d'être à charge et orienter sa présentation, quoi.
Et ben ouais, effectivement, c'est assez étrange parce que si l'épisode d'avant, il était quand même, enfin, il agissait de manière quand même super sympa, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Là, c'est devenu complètement caricatural, quoi. Là, il joue le méchant. Enfin, c'est un peu bon. Je sais pas ce que ça va donner après. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça exactement. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que du coup, pendant ce meeting-là, il révèle à tout le monde du coup une vidéo de Wanda qui pénètre chez le Sword pour récupérer le corps de Vision, où elle est vraiment pas contente. Hein, elle casse tout, elle casse les portes, elle casse les vitres. Elle part avec Vision. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que cette scène-là, ça devait être initialement la scène post-générique de Avengers Endgame, qui n'a finalement pas été mise.
Alors, d'après ce que j'ai compris, c'était uniquement on voyait le corps de Vision qui était peut-être emmené ou dans les locaux du Sword ou un truc du genre. J'ai pas l'impression qu'il y avait toute cette scène-là qui était prévue, mais peut-être.
Mais en tout cas, moi, si je devais essayer de penser à ce qui a pu se passer, j'ai l'impression que Wanda s'est rendu compte qu'on faisait des tests sur le corps de son amour, hein, et qu'on essayait peut-être de l'utiliser comme arme ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression que c'est dans ce but-là qu'elle est fâchée, qu'elle vient l'enlever. Et on voit qu'il y a du ressentiment vis-à-vis du Sword ou de Hayward directement quand elle sort du dôme. Mais voilà, moi j'ai un peu cette sensation là globale sur Hayward. J'ai l'impression qu'il essayait justement d'en faire quelque chose, hein, de ce corps de Vision, et que du coup il rejette toute la faute sur Wanda, essayer de la discréditer en tant que terroriste pour se disculper complètement de,
ouais, de, bah, d'ailleurs de ces, on a là. C'est interdit par les accords de Sokovie de faire ce genre d'expérience, comme le dit clairement Jimmy Woo. Il parlait pas quand il dit « Ah, mais c'est interdit par l'article temps aligné à temps ». Je pense qu'il parlait de ça, pas du fait que Wanda soit venue. Et Hayward disait dans l'épisode 4 « Ah oui, maintenant, intelligence artificielle, nanotechnologie, machin, tu sais, on en a besoin parce que… » Et elle dit, Monica dit « Mais on est censé… » On est censé observer, pas créer, ouais, exactement. Et donc, en plus de ça, on apprend dans l'épisode que le document qu'on laisse pour dire ce qu'on veut qu'il y arrive après sa mort. Merci, voilà, c'est compliqué le français. Le testament de Vision était qu'il ne voulait pas que son corps soit utilisé, disséqué ou quoi que ce soit, parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse de lui une arme. Et donc, clairement, enfin, c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire. C'est des méchants.
C'est des méchants.
C'est un peu... Je t'avoue que c'est un peu genre... Bon, le Shield, c'était déjà des méchants. Alors, eux, ça va être des méchants aussi. C'est genre... OK, tous les gouvernements, c'est des méchants. OK, d'accord. Bon, tous les organismes gouvernementaux, bon...
Un petit peu décevant, comme c'est vraiment si là on a vraiment découvert ce qui se passe avec le Sword et que c'est que ça, moi, je trouve ça un peu décevant parce que ça fait un peu redite.
Mais bon, ceci dit, ça veut dire que quelqu'un a dit à Wanda que ça se passait. J'imagine que c'est quand même pas facile de savoir ce qui se passe à l'intérieur du Sword et avec le corps de Vision. D'ailleurs, entre parenthèses, le corps de Vision, il était au Wakanda. Peut-être qu'il est considéré comme étant une propriété des États-Unis, mais je sais pas en vertu de quoi. Le vibranium qui a été utilisé pour créer Vision, il venait du Wakanda. La pierre d'âme, bah, elle n'est pas vraiment américaine. Peut-être qu'il se considérait comme... je doute qu'il se considérait comme américain, mais... Enfin bon, bref, on ne sait pas. Peut-être qu'il était résident américain, c'est pour ça qu'il était rendu aux États-Unis. Mais dans tous les cas, ils l'ont, le corps. Et ça veut dire que Wanda, quelqu'un lui a dit... Mais ça ne veut pas dire qu'elle est allée le récupérer pour le ranimer et pour créer Westview. Il y a une sorte de raccourci qui est fait là qui n'est pas évident dans la réalité factuelle des choses, tu vois, dans la vraie vie. On a ensuite la scène avec Monica qui fait des tests sur ses vêtements et qui se rend compte que les vêtements, en fait, sont les vêtements qu'elle avait quand elle est rentrée dans la bulle, mais qui ont été reconfigurés pour avoir le look qu'ils ont aujourd'hui. Donc, le Kevlar a juste été reconfiguré.
Et pour moi, c'est clairement un indice, entre guillemets, enfin, une démonstration que ce qui est créé à l'intérieur peut tout à fait être conservé en l'état une fois à l'extérieur de la bulle. Donc, qu'est-ce qui a d'autre été créé des enfants, par exemple, qui pourraient potentiellement sortir en l'état. Donc ça, pour moi, c'est là pour montrer que ça peut arriver. En plus de montrer que si jamais il n'y a pas besoin de changement sur l'objet quand il rentre, ils peuvent continuer à contrôler un drone, par exemple, qui daterait de la même époque. Dans la scène, moi, j'ai noté. Il y a d'autres choses que j'ai notées.
Attends, je veux juste dire un truc sur les enfants, parce qu'on l'a oublié. Agnès dit à plusieurs reprises les enfants. Une fois, je crois, mais elle dit ils sont un peu. Tu peux pas les contrôler, même si t'essayes de toutes tes forces. Tu sais, les enfants, tu peux pas les contrôler, ce qui est évidemment intéressant par rapport au fait que d'une part, il y a pas d'enfants à Westview. Il y a une sorte d'innocence des enfants qui fait qu'on peut pas les contrôler par ce processus magique. Et d'autre part, le fait que les enfants de Wanda, ils peuvent pas les contrôler. C'est pour ça qu'ils doivent par eux-mêmes faire des trucs. Enfin, bon.
Mais ouais, oui, on voit qu'elle essaye de les rendre silencieux avec de la magie, ça marche pas.
C'est ça.
Clairement, ils ont clairement leur propre volonté. D'ailleurs, on a oublié de le mentionner, mais ils ont l'air d'avoir une conscience de la bizarreté du temps qui s'écoule à l'intérieur de la série, puisqu'ils, à un moment donné, tout d'un coup, Vision est au travail et puis ils se posent la question, mais attendez, on n'est pas samedi.
Ouais.
Et la mère dit non, on est lundi. Enfin, tu vois, ils ont l'air d'être quand même
d'avoir une certaine conscience.
Ouais,
ils sont conscients
de
tout, ils disent. Ouais. Et ils disent, ah, mais tu peux ramener les gens à la vie, on peut faire ceci, on peut faire. Enfin, ils ont l'air d'être conscients d'à peu près tout, sauf qu'ils sont des enfants, donc pour eux, tout ça paraît normal, parce qu'ils ont grandi avec ça, enfin, pendant une journée. Mais bref. Oui, tu disais sur Monica.
Ouais, du coup, sur cette scène-là de Monica, donc, pour moi, la première chose qu'on montre, c'est ses résultats d'analyse une fois qu'elle est réveillée.
Oui.
Elle avait été éjectée du dôme. Et donc là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe avec Monica puisque son scanner est... Enfin, l'image est brûlée, comme si elle émettait trop d'ondes ou de photons, peut-être, je sais pas. qui semble perturber les résultats d'analyse. Bon, ça, je pense que c'est pour plus tard. Hein. C'est même pas forcément pour WandaVision, mais on montre qu'il y a des choses qui se passent autour de Monica.
Ouais. Et pareil, ces tests aussi, les tests sanguins aussi, il faut les faire. Ouais. Ça, c'est un trope qui m'énerve tout le temps dans les films. C'est genre, we're done here. On va pas faire plus de tests.
Ouais, non,
c'est bon,
non,
j'en ai marre. Mais c'est tellement débile, ça m'énerve, ça. C'est vraiment le truc genre... Mais attends, tu te rends compte qu'il y a un truc vraiment bizarre avec toi, là Non, c'est bon, moi, je suis un badass Captain Agent machin. Fais pas de tests sur moi, OK?
Dans ces films-là, quand on est irradié, on a des super pouvoirs. On n'est pas mort au bout de 3 jours parce que le corps se décompose, quoi. Donc, ouais. Et l'autre truc, c'est Monica, elle est en train d'essayer de trouver un moyen de rentrer de nouveau dans le dôme. Donc, elle élabore des théories avec avec la docteure. C'est quoi, c'est Darcy
Lewis.
Et elle prend son téléphone pour contacter un ingénieur aérospatial qu'elle connaît bien. Donc ça, j'imagine que ça va être quelqu'un qu'on connaît, soit que ça va être un personnage qu'on va revoir ailleurs. J'imagine, parce que la façon dont c'est filmé, la façon dont il y a un zoom sur le téléphone pendant qu'elle envoie son texto, la façon dont elle le dit. J'imagine que ça va être un personnage d'une autre franchise, enfin d'une autre.
Alors, il y a des gens qui disent peut-être Reed Richards des Quatre Fantastiques, Mister Fantastique. Est-ce que tu souscris à cette théorie?
Alors, pas vraiment, parce que pour moi, c'est trop important pour être présenté comme ça. Après, je sais qu'il y avait des astronautes, du coup, chez le SWORD, qui ont été snappés, qui sont revenus en même temps que Monica. Puisqu'elle l'évoque rapidement dans l'épisode 4 justement, mais après ça peut être juste ses potes tu sais, de Skrull, de
ouais, j'ai entendu Marvel, cette théorie ou... aussi, j'allais te surprendre avec une théorie sortie de nulle part, mais tu l'as eu avant moi. Ouais,
et il y a un Captain Marvel 2 qui est prévu et qui va raconter des choses qui se passent entre justement Captain Marvel 1 et maintenant, donc il peut y avoir aussi d'autres choses qui se passent à ce moment-là et qui correspondent à cette personne à laquelle elle pense, je ne sais pas.
Tout à fait. Et d'ailleurs, la frustration de Monica quand on parle de Carol Danvers est assez palpable.
Ouais, ouais.
Je pense que la théorie la plus en vogue, c'est qu'il y a eu quelque chose justement qui s'est passé et qui a peut-être même provoqué le cancer de sa mère.
J'étais plus dans l'idée que c'est juste qu'elle n'était pas là quand sa mère est morte, et que, enfin, moi j'étais resté un peu sur un truc un peu simple, tu vois.
Ça provoquerait, tu vois, quand Carol Danvers, elle a rien à voir avec, parce qu'elle n'était pas là quand sa mère est morte. Monica, elle était snappée.
Mais c'était sa meilleure amie, donc elle n'est pas venue. Enfin, tu vois, j'étais juste resté là-dessus, tu vois.
Peut-être, ouais. Peut-être.
Mais oui, j'ai pas pensé, effectivement, ça peut avoir provoqué.
Des choses dans l'espace où on a des radiations qui, là, pour le coup, ne donnent pas des super-pouvoirs, mais provoquent des cancers. Bon, ça ferait peut-être... effectivement, ça colorerait les relations, enfin, les émotions de Monica par rapport à Carol Danvers. Donc, après ça, on a le fameux drone des années 80, ce qui est d'ailleurs... un petit peu débile, je trouve. C'est pas parce que ça correspond aux années qu'elle a pas besoin de le... Bon, ok, peut-être. Mais elle l'envoie... Enfin, en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, elle l'envoie et Wanda sort de chez elle et elle voit ça. Et là, Hayward dit « Non, tirez-lui dessus, on va lui envoyer !» C'est à quoi sur le drone un petit missile pourri. Et donc, il espère, quoi, tuer Wanda.
Je ne sais pas trop ce qu'il essayait de faire, mais ça avait très peu de chances de fonctionner. Enfin, il avait très peu de chances de neutraliser Wanda.
Bah, clairement. Et d'ailleurs, il y a ce moment absolument délicieux de fanitude où il parle de la puissance. Je ne sais plus quand c'était peut-être pendant le briefing, où il parle de la puissance de Wanda par rapport aux autres. C'est justement à ce moment qu'ils évoquent Captain Marvel et ils disent mais attends, est-ce que tu crois qu'elle est assez puissante pour faire ça? Et il y a quelqu'un qui dit elle a presque battu Thanos, hein, s'il avait pas fait machin, elle l'aurait battu. Et il dit je trouve que Captain Marvel aussi.
C'est les discussions de fans, ça. Qui gagnerait entre
Hulk et la chose. C'était ces discussions là à l'époque, mais à mon époque en tout cas. Mais c'est marrant parce que tu dis, c'est des gens qui ont raconté, ou ils avaient des petites caméras, ils avaient des GoPro, tu sais, sur les vêtements qu'on n'a pas vus, ou comment ils savent, en fait, que... peut-être qu'ils avaient des satellites.
Je pense que c'est très simple, hein, c'est un événement majeur, et du coup, ils ont dû quand même rendre des comptes sur ce qui s'était passé, pourquoi les gens avaient disparu, pourquoi ils sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Il y a peut-être même des drones de militaires qui étaient là pour filmer, je sais pas, peut-être. Mais je pense que c'est pas incroyable que les gens soient au courant, en tout cas.
Oui, mais à ce point-là, quand même. Wanda, elle a presque battu Thanos. Genre, ils ont vu quand elle contrôlait et qu'elle était en train de l'écrabouiller dans son... Bon, bref, peu importe. Mais donc, Hayward, qui envoie un missile sur elle, comment est-ce qu'il pouvait imaginer... soit c'était intentionnellement pour lui faire mal, et là, tu te dis, mais garçon, t'es pas très bon à ton boulot, en fait. Ou alors, peut-être qu'il voulait juste la perturber suffisamment pour que ça fasse... pour que ça détruise l'illusion sur les autres personnes. Peut-être qu'il s'était dit ça, bon, peut-être. Ou alors... Ils voulaient intentionnellement l'antagoniser pour créer quelque chose, pour la maintenir dans l'illusion ou dans la volonté de protéger tout ça.
Je pense pas que c'était pour la maintenir, parce que pour la maintenir dans l'illusion, finalement, suffit de lui foutre la paix, hein, et parce que justement, tu brises un peu l'illusion à venir à venir la voir comme ça. Non, je pense malheureusement que c'est juste que c'est un personnage caricatural et que voilà, c'était un peu juste pour montrer qu'il est pas cool avec Vanda et qu'il empêche les gens de travailler correctement autour de lui. Donc
parce qu'il est vraiment méchant.
Mais je pense que c'est ouais, je pense que c'est juste qu'on en est juste là quoi.
Et du coup, Wanda est un petit peu énervée et elle sort de la bulle. Enfin du Hex, comme c'est tellement malin quand elle dit, c'était dans cet épisode ou dans le précédent où,
non celui-là ouais.
C'est dans celui-là où elle dit le Hex, Darcy elle dit ah le Hex, elle fait le Hex, il y a le Hex, je sais pas quoi, ce qui veut dire sortilège bien sûr, et du coup maintenant c'est bon, c'est du Hex, c'est des sortilèges, c'est une sorcière, c'est avec deux mots. Tu sais à quoi ça me fait penser? Comment faire en sorte que Vision, quand il est né, va se faire une cape pour que ça colle au costume des comics. Pourquoi est-ce que ce truc se ferait une cape? Il suffit d'un regard, il regarde Thor, il se dit « Ouais, lui, c'est un badass, donc pour me faire une image de badass et que les gens comprennent ce que je suis, je vais mettre une cape aussi. » Et ok, pas de problème, il a une cape. Voilà, c'est terminé. Et donc, c'est expliqué en un truc. Et ben là, c'est un petit peu pareil avec un petit clin d'œil, et oui, il faut qu'on soit un petit peu d'accord pour suivre le cheminement, mais avec un petit clin d'œil avec ce Hex, ils réussissent à justifier le fait que c'est une sorcière, enfin, qu'on l'appelle la sorcière. D'ailleurs, quand Hayward dit « Mais elle n'a pas de surnom, de petit nom débile, machin », il n'y a aucun doute qu'à un moment, quelqu'un va dire « Ok, bon, bah, c'est la sorcière rouge parce qu'elle a tout fait en rouge » ou je sais pas quoi. Et bref, enfin oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans les comics, c'est la sorcière rouge de Scarlet Witch. Donc, c'est pour ça que le fait qu'ils disent Hex est important dans la continuité du truc. Mais oui, donc elle sort, pas hyper contente, il faut avouer.
Non, elle a repris son accent sokovien,
tout à fait. L'accent léger de la fin des Avengers, alors que dans la série, elle ne l'a pas du tout. Elle parle anglais complètement. J'aurais curieux d'ailleurs de voir en français si elle a un petit accent d'Europe de l'Est ou s'ils n'ont pas géré ça. Ah. Si, sûrement qu'ils l'ont géré. Mais oui, donc elle sort, elle a son petit accent et elle n'est pas contente. C'était une scène assez sympa, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en as pensé,
ouais,
toi?
Ouais, j'aime beaucoup cette scène. Elle m'a fait penser, alors j'ai vu que je n'étais pas le seul, mais elle m'a beaucoup fait penser à une scène de Magneto où il sort d'un bâtiment et où il braque les policiers, il utilise les armes des policiers qui sont à l'extérieur pour les retourner contre eux. Mmh. Et donc là, elle utilise son sortilège pour retourner un peu les militaires contre Hayward. Et ça m'a un peu marqué. J'ai vraiment ressenti cette scène-là un peu de la même façon. Mmh. Donc ouais, c'est une scène super impressionnante où en plus la manière dont elle sort, elle jette le drone, elle tanne le drone, elle marche vers le groupe du Sword, elle leur jette machin, et puis là clairement elle marque son territoire, voilà, faut me foutre la paix, on lui demande ce qu'elle veut, je fais mais j'ai déjà tout ce que je veux, donc allez, ouais, remballer, et puis je vous dérangerai plus non plus.
Ouais. Donc, ouais, vous non, m'emmerdez pas, je vous emmerde pas, ouais, vous me laissez tranquille quoi.
Voilà, avec un commentaire justement où on sent qu'il y a un passif hein, entre elle et Sword, puisqu'elle dit c'est vous qui avez provoqué ça. Enfin, donc il y a clairement un truc antérieur hein, qui s'est passé avec le Sword, j'ai l'impression. Et puis voilà. Après,
c'est l'histoire de Vision, je pense. C'est le fait qu'ils avaient pris.
Oui, sûrement, sûrement. Ça, oui. Et du coup, après, on a l'impression qu'elle fait quelque chose justement au dôme qui devient rouge. Alors.
Qui va être plus difficile à traverser, on va dire.
Ouais.
Je pense.
Ouais, elle rajoute une couche de.
Ouais, c'est ça. Je pense. Et effectivement, c'est un moment qui montre aussi qu'elle est très consciente de ce qui se passe, au moins maintenant, à défaut de savoir comment ils en sont arrivés là, comme elle le dit avec Vision. Mais là, elle est très consciente de ce qui se passe et elle veut être dans son petit monde tranquille. Ouais, donc c'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est encore une fois, c'était dans le meeting, je crois, où Monica disait, mais. Je suis pas morte parce qu'elle a voulu me protéger et elle n'a pas de préméditation d'attaque sur qui que ce soit. Mais en même temps, ce que dit Hayward à ce moment, il dit « Mais c'est pas aussi simple que ça, on peut pas juste te laisser tranquille, il y a des milliers de personnes que t'as pris en otage dans ce dôme, donc on peut pas te laisser tranquille. Mm-hmm. » Je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit bah, « Va te faire foutre, j'en ai rien à foutre, parce que clairement, c'est pas... pas... Il y a... Elle est consciente de tout ça, mais elle n'est pas complètement innocente dans l'affaire. C'est vrai qu'elle
non,
retient.
Non, clairement. Vraiment, elle tient à ce que ça reste en l'état, quoi. Donc,
Oui, et elle tient en otage. Alors, c'est peut-être pas elle, mais de ce qu'on en comprend, il y a des gens qui sont retenus en otage dans sa bulle. Et c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça pour le coup. Autant sur tout le reste, Hayward, je suis pas tout à fait d'accord. Autant là, c'est pas aussi simple.
Elle agit un peu comme si c'était pas de son fait, mais qu'elle avait pas du tout l'intention de changer les choses, quoi.
Ouais. Donc bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées?
Moi, il y avait juste un élément qui m'a un petit peu marqué. Alors, c'est un entre guillemets sujet parce que du coup, là, c'est plus du coup en rapport avec du coup avec le comics, mais du coup aussi un peu avec les films X-Men. Hein. C'est que du coup, en tout cas, le Quicksilver qui arrive dans cette réalité, c'est le fils de Magneto. Et comme Wanda, c'est sa sœur, en théorie, d'une manière ou d'une autre, Wanda est aussi la fille de Magneto. Alors, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont gérer ces réalités-là. Mais du coup, pendant le briefing, Hayward, il donne le nom des parents de Wanda et Pietro, et le Pietro du MCU. Je crois que c'est Irina et Oleg Maximoff.
C'est ça.
Et ça m'avait marqué parce que du coup, j'avais entendu du coup des résumés sur la vie de Wanda avant de regarder la série. Et ce sont des noms qui ne sont pas du tout utilisés dans les comics, parce que du coup, dans les comics, ils ont des parents adoptifs, des parents où on croit que c'est leurs parents, mais en fait, non. Il y a effectivement Magneto et je ne sais plus qui. Enfin, il y a pas mal de personnages comme ça qui donc, j'avais dit la dernière fois, mais l'affiliation de ces deux personnages-là a un peu changé au fil des comics. Mais en tout cas, pas de Oleg et Irina. Donc, je me suis demandé s'il y avait une raison particulière à prendre de nouveaux prénoms comme ça. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose ou pas? Voilà, c'était juste pour le mentionner.
C'est une bonne question. C'est peut-être simplement pour dire justement, c'est pas Magneto, c'est pas des gens qui ont un rapport avec ce que vous connaissez par ailleurs. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fait que les personnages des pubs, c'est peut-être eux. C'était l'une des théories. C'est peut-être les parents.
C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes dans les pubs.
C'est toujours les mêmes de personnages avec des styles bien sûr très différents, mais.
Ouais, d'accord.
Ouais. Et Lagos. Pour quand vous faites un You Make a Mess You Didn't Mean To, c'était assez terrible cette. Avec ouais, le.
Ces pubs-là sont très bien, franchement. Ouais. Elles sont vraiment savoureuses à chaque fois. Donc, hâte de voir la pub suivante. Ça fait partie des choses qu'on attend.
Tous les acteurs sont des acteurs, enfin, sont des gens du truc, alors que si c'était ses parents, ça serait vraiment des images de son subconscient. Ça serait peut-être un petit peu différent. Mais bon, bref, on ne sait pas. C'est pas que ça serait impossible non plus. C'est pas genre, ah bah non, si c'est ça, physiquement, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible, non. Bon, écoute, je crois que excitation pour l'épisode 6 maximum.
Ouais. Et du coup, là, ça appuie encore ce qu'on disait la dernière fois, mais le fait que ça soit hebdomadaire, c'est ça qui est savoureux, parce que du coup, on en parle tous les deux, on en parle sur le Discord, on en parle sur Twitter, en essayant de pas spoiler, mais il y en a qui sont pas très bons à pas spoiler. Hein. Moi, je vois des choses passer. et du coup, on en parle avec les collègues. Moi, j'adore, en fait, quand il y a suivre un truc, puis voilà, en discuter chaque semaine, et puis être dans l'attente, hein, dans l'impatience pour voir la suite. Et donc, la suite, c'est vendredi prochain.
Vendredi. On a vraiment choisi le bon moment pour lancer ce podcast. Hein.
Ouais.
Je trouve que là, on est pile. Je disais, on se vautre dans notre fandom. On prend plaisir. Vraiment, on boude pas notre plaisir avec la joie que nous procure ce truc. Donc, je suis vraiment content. Et là, je t'avoue que je m'attendais pas. Bon, on va attendre que la série se termine avant de tirer des conclusions définitives. Mais je m'attendais pas à un truc. D'une part, d'une telle qualité, d'une telle inventivité, et puis que ça soit aussi excitant, parce que Mandalorian était genre à ce niveau, enfin, est assez réussi aussi pour alimenter les théories et les machins, et même si j'étais pas un fan de Star Wars, je suis quand même assez bien rentré dans Mandalorian, mais là, c'est tout à... Bon, peut-être parce que je suis fan de Marvel, mais c'est un niveau complètement fou, quoi, ce truc avec Pietro, mais... J'étais vraiment « Oh my God !» Mais littéralement, ça n'avait jamais arrivé. Je ne suis pas le genre de personne qui fait ça. Et ma femme qui me regardait genre « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?»
Moi, la dernière série que j'avais suivie un petit peu comme ça, avec peut-être probablement autant d'excitation, c'était le Watchmen récent. Puisque d'habitude, en général, je binge les séries parce que soit je m'y intéresse trop tard et du coup tout est sorti, soit c'est des séries Netflix qui arrivent tout d'un bloc. Et ça faisait très très longtemps avec Watchmen et puis maintenant WandaVision que j'ai un truc que je suis vraiment semaine après semaine et c'est un vrai plaisir.
Dernière question avant de conclure, ils ont leur super pouvoir dans la série. Est-ce que tu crois que Pietro va courir très très vite dans l'épisode 6?
Alors, je sais que c'est pas bien, mais j'espère qu'ils vont refaire la scène qu'ils ont déjà fait deux fois dans X-Men. moi, je l'aime bien cette scène. Et une version, tu sais, cheap années 90, du coup.
Ah, ça serait marrant.
Avec les câbles et tout ce qu'il faut.
Les
acteurs capables de bouger.
ou alors, tu sais, un truc où, comme dans L'Homme qui valait 3 milliards, quand tu cours très lentement, c'est pour montrer voilà. Que tu vas très vite. Ça serait marrant, ça. Mais parce qu'en plus, la semaine prochaine, normalement, c'est années 90. Donc, c'est ouais, Friends, Seinfeld. Alors, je ne sais pas comment étaient les effets spéciaux à cette époque, je ne m'en rappelle plus. Bon, c'était Terminator 2, donc il devait y avoir quand même des pauvres images de synthèse pourries. Mais c'est cette époque-là. Moi, j'ai très hâte de voir comment ils vont faire le Friends. Le Friends ou Seinfeld, ouais. Ça va être.
Je sais pas. J'avoue. Et puis, je sais pas s'ils vont aller beaucoup plus loin après ça. Donc,
Il y a plus grand chose.
Il reste 4 épisodes. Il reste 4 épisodes. Donc, théoriquement, il reste au moins 3 décennies ou 2 décennies.
Ouais, mais je veux dire. Alors
j'imagine
là, tu peux faire 80.
J'imagine qu'ils vont se rapprocher du 2020 jusqu'à la retour à la réalité, quoi. Donc.
Mais qu'est-ce que tu fais comme sitcom? Parce qu'il y a Friends, Seinfeld, années 90, années 2000, c'est
The
genre
Office avec...
Arrested Development, The Office, c'est vrai, ouais.
Ouais.
T'imagines The Office, ce genre de truc. Et 2010, quoi, c'est Scrubs, je sais pas, ce genre de truc.
Je sais pas.
On verra. Bon, merci Johan d'avoir partagé ce moment avec moi. Ouais. Est-ce que les auditeurs qui veulent te retrouver peuvent aller quelque part pour en avoir plus?
Eh ben, ils peuvent venir me voir sur Twitter, @JohanT_, et puis me parler de jeux vidéo, du MCU ou de n'importe quoi d'autre.
Super, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram et tout le reste. Vous pouvez aussi voir tout ce que je fais sur notepatrick.com. Vous avez accès à tous les podcasts que j'anime, comme le rendez-vous tech, où on parle de tech toutes les semaines, le rendez-vous jeu, où on parle jeux vidéo toutes les semaines, ou par exemple Super Laser Punch que vous écoutez maintenant. C'est à peu près tout. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux et puis surtout la semaine prochaine pour le débrief de l'épisode 6. Pour lequel on a tous les deux très très hâte.
Eh oui.
Ciao, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.